Session Les Trois Sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, première conférence du 11 septembre 1994.
Et un très grand amour. dans un monde qui ne sait plus ce que c'est que la pauvreté. Il faut qu'il y ait cette recherche constante, constante, de la vérité dans la pauvreté. Si vous regardez toutes les théologies modernes, la plupart, pas tous, hein, il y a encore de très bons théologiens, grâce à Dieu. Mais on sent bien que les théologiens qui sont mis en vedette à cause de leur originalité et souvent à cause de leur hardiesse, une fausse hardiesse. Parce que quand on a une hardiesse qui ne repose pas dans une recherche de vérité, c'est une fausse hardiesse. Ça ne dure pas. Et ça ne peut pas durer. C'est passionnel. On voit que toutes ces erreurs théologiques d'aujourd'hui reposent sur des confusions philosophiques. Dès qu'on n'a pas eu le courage de rechercher suffisamment la vérité. Il faut être conscient que pour mettre notre intelligence en harmonie, si j'ose dire, au service de la foi, ça exige vraiment que notre intelligence soit très très purifiée. Vous voyez, il ne faut jamais oublier cette parole de Karl Rahner, qui a été un des grands théologiens, mais qui n'a pas été jusqu'au bout de sa recherche. Karl Rahner dit que ce qui caractérise la théologie moderne, actuels, ceux qui veulent être pleinement de leur temps et qui suivent ces théologiens, c'est d'avoir remplacé la métaphysique par une anthropologie. Il le dit textuellement. Et quand on, à Fribourg, il y avait un étudiant de théologie qui voulait faire une thèse sur Rahner pour montrer quelle était la philosophie que Rahner utilisait dans sa théologie, il lui a écrit en lui disant: j'aimerais savoir quelle est votre philosophie. Et Rahner a répondu: je n'en ai aucune. C'est-à-dire qu'il prenait son bien à droite et à gauche. C'est compréhensible d'une certaine manière. Ça peut être très vrai. Tous ceux qui recherchent la vérité sont nos amis. Tous ceux qui recherchent la vérité sont nos amis. Et ça, il faut se le rappeler tout le temps. Il n'y a pas de droite et de gauche. Hein. Il n'y a pas des conservateurs et des révolutionnaires. Ça, c'est des concepts humains aplatis sur l'âge, sur le point de vue divin. Je me souviens, c'était à Fribourg. J'avais de temps en temps au petit déjeuner à côté de moi un bon père dominicain polonais qui pour lui c'était la logique mathématique qui comptait avant tout. Donc la métaphysique, il ne savait pas très bien ce que c'était, mais c'était la logique mathématique. Et il lisait le grand journal russe tous les matins à Pravda au petit déjeuner pour lui donner de l'appétit. Un beau jour, c'était juste avant le concile, quand on préparait le concile. Il m'a dit: tenez, regardez cet article. Alors j'ai dit: traduisez-le moi, ce sera mieux. J'aurais dû le garder. Alors il m'a traduit. Le concile des catholiques qui se fait à Rome doit sonner le glas du catholicisme. On divisera l'Église en deux, les progressistes et les conservateurs et les traditionalistes. Il faut diviser l'Église en deux, puisque aujourd'hui l'Église veut se séparer du point de vue politique et qu'elle veut rester elle-même dans sa recherche. Il faut que de l'intérieur, on la divise en deux. Et il y a deux grandes tendances chez les cardinaux, chez les évêques. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette caricature. Mais il n'avait pas lu le mot d'ordre de Moscou. Hein. Et ce mot d'ordre de Moscou est assez impressionnant quand on voit actuellement. On divisera l'Église en deux, les progressistes et les traditionnels. Le mot d'ordre venait donc de Moscou. Parce qu'évidemment, ils n'ont rien d'évangélique. Être chrétien, être catholique, c'est être du Christ. Et le Christ, il vient d'en haut. Il vient d'auprès du Père. Et sa théologie, c'est la théologie du Père. Et c'est d'être fils bien-aimé du Père. Et de l'être pleinement et totalement. Et c'est d'être notre sauveur. Et il s'est dit dans la grande prière, chapitre 15 dans Saint Jean, chapitre 17 dans Saint Jean, il vient pour glorifier le Père. Il vient pour nous sauver. En glorifiant le Père, il nous sauve. Il ne faut jamais oublier ça. Et il ne faut jamais oublier ce que le Saint-Père a dit la première fois qu'il est venu à Paris et qu'il a vu les évêques, tous les évêques français à huis clos. Et ça a paru dans la documentation catholique. Il a dit, à la fin de son discours, que l'Église vit actuellement une méta-tentation. Ça, c'est bien la signature du pape. Comme il y a la métaphysique, il y a une méta-tentation. C'est-à-dire la tentation radicale. La tentation qui est la tentation, j'allais presque dire, à l'état pur, typiquement chrétienne. L'Église vit une méta-tentation. C'est que l'humanité, arrivée à un âge adulte, veut se sauver par elle-même. Il n'y a plus de place pour le sauveur. Et comme c'est intéressant ça pour nous, et comme c'est une vision très divine et très forte, quels sont les premiers qui font ça? Ce sont les théologiens et les théologiens de l'espérance, et qui veulent transformer l'espérance théologale en une espérance anthropologique. Et c'est cela, je crois, qui est la chose la plus terrible. La corruption de l'espérance théologale. L'homme veut se sauver par lui-même. Et l'homme voulant se sauver par lui-même, il conduit au désespoir. Et il y a là quelque chose auquel on doit être très attentif. Cette corruption d'espérance. Et cette corruption d'espérance qui se fait par des philosophes, par des théologiens, qui se sert non plus d'une métaphysique, mais d'une anthropologie, et veulent découvrir à travers l'immanence de l'homme leur espérance. Et c'est le niveau, l'idole du progrès de la science. mettre ça en parallèle dans une vision de théologie de l'économie divine, on vit quelque chose de très nouveau. Et le pape souligne que l'Église n'a jamais connu une tentation aussi forte que celle actuelle. Une méta-tentation, qui est une tentation qui regarde toute l'humanité, mais très spécialement l'Église catholique. Vous êtes attentif à ce mal qui vient du démon, qui vient dans le langage de l'Apocalypse, de la bête de la terre et de la bête de la mer. Les hommes ont besoin d'espérance pour vivre. Quand il n'y a plus d'espérance, ils se replient sur eux-mêmes. Le chiffre de la bête est un chiffre d'homme. Et c'est l'homme qui se replie sur lui-même. 666. Et qui veut être lui-même sauveur des hommes. Or, il ne peut pas être sauveur des hommes. Puisqu'il fait partie d'une humanité blessée, d'une humanité qui subit les conséquences du péché originel. Et seul le Christ peut donner à l'humanité la véritable espérance. Et sûrement que la plus terrible des tentations aujourd'hui, c'est de croire que c'est le progrès de la science et le progrès des techniques qui vont sauver l'homme. Et cela conduira nécessairement à un suicide généralisé, c'est-à-dire le désespoir radical. Le fruit d'une philosophie dans l'immanence de l'homme. La confusion radicale entre l'intentionnalité et le réel. C'est l'ontologisme. Vous êtes très attentif à ça. Vous voyez toutes les erreurs que le Saint-Père démasque dans son encyclique Splendor Veritatis au niveau de la théologie morale, donc au niveau de l'homme dans son espérance, dans sa liberté, dans sa capacité d'aimer. Toutes ces erreurs proviennent de philosophie moderne et de philosophies qui veulent rester dans l'immanence, ayant complètement perdu le sens de la finalité. Je voudrais maintenant, avec vous, regarder la troisième sagesse. La sagesse des tout petits. sagesse. C'est comme ça que saint Thomas définit la sagesse. Un habitus contemplativus. C'est vrai pour la sagesse acquise, philosophique, métaphysique. C'est vrai pour la sagesse acquise, théologique. C'est vrai au maximum pour la sagesse don du Saint-Esprit. Le propre du sage, c'est de contempler. C'est d'avoir soif de contemplation. Et il y a trois niveaux de contemplation. Et le propre du sage, grâce à cette contemplation, peut tout regarder dans la lumière de cette contemplation. Au niveau sagesse philosophique, au niveau sagesse acquise, théologique, au niveau sagesse infuse, mystique. Et nous devons, si nous voulons être fidèles à notre grâce, et je dis bien ça pour la communauté Saint-Jean, si nous voulons être fidèles à la grâce que Dieu nous a donnée, c'est de comprendre que chacun d'entre nous, selon le bon plaisir du Père sur nous, c'est de vivre de cette sagesse mystique, en avoir soif. On n'en vit jamais parfaitement, on en vit toujours dans le désir. C'est pour ça que Catherine de Sienne dit que c'est le désir de cette contemplation mystique qui est ce qu'il y a de plus grand dans notre cœur. Et c'est vrai, c'est qu'il y a de plus grand dans notre cœur. Et nous devons avoir un désir de contemplation, de théologie acquise. Vous voyez, qui est juste l'inverse d'une théologie, d'un système. Il n'y a pas de contemplation dans un système. Parce qu'on contemple son nombril. Non, c'est pas une contemplation. C'est une satisfaction de soi. Un repliement sur soi. Le système, c'est le refoulement de la contemplation. Et c'est le désir de posséder la contemplation. Et en la possédant, on la détruit. Et la contemplation n'existe plus. C'est terrible, hein, le monde qui veut tout le temps ramener tout à des méthodes et donc à des systèmes. Et la réalité est cachée par le système et par la méthode. Et ce qui est le plus effrayant, je crois que c'est le pharisaïsme le plus terrible. Le pharisaïsme intellectuel de celui qui veut tout dominer par sa connaissance. Il y a une contemplation de théologie acquise. Il y a une contemplation acquise de théologie, mais qui est l'inverse du système. Et il y a une contemplation philosophique qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il ne faut pas tomber dans le fidéisme contemplatif. Et cela existe très très souvent, puisque j'ai la contemplation mystique, le reste ça m'est égal. Carmélite dit ça, je l'absous. Qu'une sœur de Saint-Jean contemplative dit ça, je ne l'absous pas. Parce qu'aujourd'hui, la lutte est tellement forte qu'on demande aux petits et aux contemplatives d'accepter la lutte et d'être même parachutés en première ligne devant leurs frères. Vous savez ce qui s'était passé dans la dernière guerre, si je l'ai vu de mes propres yeux, quand l'armée d'Hitler, je ne dis pas l'armée allemande, l'armée d'Hitler, je distingue, dominicain pendant la guerre qui était passé dans notre grand couvent du Saulchoir et qui était farouchement anti-pierrien. Il disait distinguer tout le temps les deux. Il y a des Allemands héroïques qui sont anti-Hitler. Hitler, c'est une idéologie. C'est pas un pays, c'est une idéologie. Une idéologie de race pour pouvoir supprimer certains. Là, il faut comprendre ce qu'ils faisaient quand leur char avançait. Il y avait quelquefois à l'extérieur des chars des jeunes collés au char pour qu'on ne tire pas dessus. C'était effrayant. Ils mettaient des jeunes à la place de la cuirasse qui les protégeait. Alors, vous voyez, ce truc, ça c'est démoniaque. Si on tire sur les chars, on tue ces jeunes. Mais toujours, le démon n'invente jamais rien. Il contredit, il est en dialectique à l'égard de ce que l'Esprit Saint fait. C'est la dialectique de l'art de l'Esprit Saint, le démon, constamment. C'est pour ça qu'on doit être très attentif à toute pensée dialectique. Vous vous demandez si elle n'est pas démoniaque. Parce que la dialectique, c'est la mort de la contemplation. La dialectique prend tout, hein. Pas la dialectique aristotélicienne qui est justement à un niveau particulier, mais qui n'est pas la pensée philosophique. La pensée philosophique est ordonnée à la contemplation. La vraie pensée philosophique. La pensée théologique est ordonnée à la contemplation. Un théologien qui n'est plus un contemplatif n'est plus un théologien. Parce que la foi est contemplative. Et si c'est la foi qui commande toute la théologie, la théologie doit être contemplative. Et quand on est contemplatif, on est totalement dépendant du mystère qu'on contemple, qui est une personne. On ne contemple qu'une personne. On ne contemple pas des idées. On ne contemple pas des valeurs. On contemple une personne. La personne qui nous finalise, qui est source d'amour pour nous. Et quand cette contemplation est parfaite, elle porte sur Dieu, sur la personne divine. Il ne faut jamais oublier cela. Et que l'Esprit Saint peut, quand la lutte est très forte, demander à des petites contemplatives ou à des contemplatifs d'accepter d'être mis sur le champ de bataille. Une petite marde était ça. Elle était sur le champ de bataille. On est sur le I'm charité tout à fait divin, grâce au don de sagesse, nous fait vivre de cette contemplation. Cette contemplation peut prendre des modalités très très différentes. À certains moments, cette contemplation peut mobiliser toutes nos forces et être en extase. La contemplation a un mode extatique, c'est-à-dire qu'on est tout entier porté vers celui que nous contemplons, le Père. tu as accepté la croix pour que le Père soit plus présent pour nous et plus intimement présent pour nous, pour que le Père soit là pour nous. Je vous ai déjà dit, hein, l'icône de la très sainte Trinité que saint Jean nous révèle, qui est au terme de son évangile, qui est au terme de la grande révélation. Et nous devons avoir un amour extraordinaire pour cette icône. Nous devons la vivre intérieurement, cette icône. Aujourd'hui, on vit beaucoup d'icônes de la très sainte Trinité, celle de l'Ancien Testament, des trois jeunes gens. C'est très bien, mais c'est l'Ancien Testament. Et donc, on ne peut pas s'y arrêter. On ne peut s'arrêter qu'au Christ crucifié, qu'à Marie au pied de la croix et qu'à Jean. Et pour nous, puisque l'Église a accepté qu'on soit de la famille Saint-Jean, c'est ça que ça veut dire, congrégation Saint-Jean, ça veut dire qu'on est de la famille Saint-Jean. C'est-à-dire qu'il y a un lien spécial avec Jean, que nous devons accepter, chacun d'entre nous, au plus intime de notre cœur. Autrement, Saint-Jean n'agira pas sur nous. C'est nous qui devons dire à Saint-Jean, nous sommes des petits-enfants, les petits derniers, les petits benjamins dans l'Église, les plus fragiles, les plus faibles. Et nous avons terriblement besoin de toi. Nous avons terriblement besoin de Saint-Jean. Et Saint-Jean nous prend, si nous lui demandons, et nous met dans le cœur de Marie. C'est la voie d'accès à Marie, hein, la voie la plus directe pour nous. Voilà ta mère. Comment Jean a gardé cette parole, et comment cette parole a été efficace dans le cœur de Jean. Il a fait que Jean est devenu petit enfant bien-aimé de Marie. Jean avait un respect énorme vis-à-vis de la très sainte Vierge. Un respect qui provenait de sa vertu de religion, qui provenait de sa dévotion. Il avait un très grand respect pour Marie. Mais jamais Jean n'aurait osé regarder Marie comme sa mère, sans la parole de Jésus. Elle était la mère de celui qui était son maître, son Seigneur, son Sauveur, son Dieu. Et c'est Jésus qui lui dit de passer de la dévotion à la réalité mystique dans l'amour. Et la réalité mystique, c'était d'être le fils bien-aimé de Marie. Et de savoir qu'il y avait ce lien réel dans la grâce. Que sa grâce, sa foi, son espérance et sa charité étaient enveloppées du mystère de Marie. Enveloppé de ce mystère maternel, que Marie le portait. Et que Marie pouvait le présenter à Jésus et au Père. Il faut que nous vivions très profondément de cette paternité de Saint-Jean sur nous. Pour que nous puissions regarder Marie comme lui l'a regardé. Comme Jésus lui-même regarde Marie. Alors quand on dit « Vous aimez trop la Vierge Marie », vous répondez toujours « Non, parce que je ne l'aime pas encore comme Jésus l'a aimé. » Alors à ce moment-là, ils sont obligés de se taire. Nous devons aimer Marie comme Jésus l'a aimé. notre cœur est changé dans le cœur du Christ et que notre cœur alors a la soif du cœur du Christ pour le Père. Et nous aimons avec Marie et dans le cœur de Jésus. Saint Thomas.